concourir à l'apparition du cancer du sein chez la femme?
Vous avez les facteurs hormonaux, donc hyper-œstrogéniques par exemple. C'est-à-dire que des femmes qui ont un taux d'œstrogène très très élevé, qui va stimuler la glande mammaire, ça peut être aussi un facteur de risque.
Qu'en est-il des antécédents familiaux? Sont-ils aussi impliqués dans le développement d'un cancer du sein féminin?
La prédisposition familiale. Le risque relatif augmente à peu près de 2 à 3 lorsque vous avez une parente de premier degré, c'est-à-dire une sœur ou une mère, qui atteint un cancer du sein. Et puis il y a les cancers dits héréditaires qui ne sont pas nombreux, heureusement. On pense que certaines femmes ménopausées, ou maintenant les rondeurs ou une fraîcheur, se font injecter régulièrement des hormones. Lors de 10 ans de pratique, cela peut devenir un risque réel pour le cancer du sein.
Certaines maladies dont la femme a pu souffrir antérieurement peuvent-elles aussi être impliquées dans la formation d'un cancer du sein chez la femme?
Bien sûr, vous avez les antécédents de pathologie, on peut également parler de la sédentarité, le manque de sport, l'obésité, tout ça sont des facteurs qui peuvent concourir à l'apparition d'un cancer du sein.
Puisqu'on venait de parler de maternité, il y a un auditeur, Hippolyte Laoumaï, il se demande si une femme fait un mort-né, mais que la lactation continue pendant un certain temps, est-ce qu'elle va risquer de développer un cancer du sein à cause de ça?
Non, pas du tout. Vous pouvez rassurer cette auditrice et dire que ça n'a rien à voir avec cette situation qu'elle présente.
Alphonse Mbouaki, depuis la RDC, dit « Il paraît qu'une femme qui applique des parfums composés d'aluminium de façon régulière attrapera ce cancer. »
Vous savez qu'en Afrique, il y a tout. Il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui fantasment sur le cancer du sein. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que vous parfumez le corps ou vous mettez de l'aluminium, je ne sais pas quoi, quelque part, vous allez faire un cancer du sein. Non, il faut rassurer cet auditeur-là. Les facteurs de risque, ce sont ce que je venais d'énumérer, le parfum n'a rien à voir avec l'apparition d'un cancer.
Il y a deux auditeurs qui veulent savoir si certains aliments peuvent être incriminés dans la formation d'un cancer du sein chez la femme. Alfred Noël mentionne les aliments en boîte de conserve et Alphonse Mbouaki s'inquiète au sujet des vivres frais et des épices chimiques. Est-ce qu'ils peuvent provoquer le cancer du sein?
Il faut dire que les additifs qu'on met aujourd'hui dans les boîtes de conserve ont permis de ne plus avoir, je trouve, les cancers de l'estomac. Vous savez qu'à l'époque, au Japon, il y avait beaucoup de cancers d'estomac liés aux boîtes de conserve qui étaient mal gérés. Ben aujourd'hui, l'alimentation sous forme de conserve n'a rien à voir avec un cancer du sein.
Henri Kasongo Mulenda, depuis Kisangani, en République démocratique du Congo, il veut savoir à quel âge une femme peut développer un cancer du sein.
Il faut dire que jusqu'à 18 ans à peu près, il n'y a pas de cancer du sein. L'expérience qui est la mienne de 36 ans d'oncologie médicale montre que ma première malade très très jeune avait 19 ans. Avant 20 ans, normalement, il n'y a pas de cancer du sein. À Brazzaville, nous avons eu un cas d'un cancer du sein à l'âge de 19 ans, mais qui était un cancer d'ailleurs fulgurant. Comme vous le savez, plus on est jeune, plus le cancer du sein est méchant. Donc, à partir de 19 ans, 20 ans, on peut y avoir un cancer du sein.
Question de Alfred Nobel. Les femmes de la brousse, bon, entendu, celles qui vivent dans la campagne, sont-elles aussi touchées par le cancer du sein au même titre que celles qui vivent en ville, ou bien cette maladie n'est-elle réservée qu'aux citadines? Le fait que ces deux groupes de femmes peuvent avoir un mode de vie différent a-t-il une incidence sur la formation du cancer du sein?
Non, le cancer du sein touche tout le monde, qu'on soit à la campagne ou en ville. Le seul problème, c'est qu'à la campagne, si vous n'avez personne pour vous dépister ou vous faire le diagnostic, on passera à côté du cancer du sein. Et on peut lier parfois cette pathologie à la sorcellerie. Bon, on rentre dans le domaine anthropologique ou domaine sociologique. Mais non, le risque est quasiment le même à la campagne comme en ville.
Est-ce que le cancer du sein, ça existe aussi chez l'homme?
Oui, bien sûr, madame. Quand on prend la population générale des cancers du sein, il y a à peu près 1% des hommes qui feront demain un cancer du sein. Oui, le cancer du sein, on le retrouve chez l'homme. Il est même beaucoup plus grave puisqu'il se développe dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, le cancer est tout de suite en contact avec les os, avec la paroi thoracique. Donc, il y a un risque d'essaimage au niveau des os. Et puis, ça va aller très, très vite dans les vaisseaux et puis se disséminer, aller se mettre partout et donner des enfants à distance.
Ok, c'est intéressant. On va faire une émission spéciale sur le cancer du sein chez l'homme.
Il n'y a aucun souci.
Les symptômes qui peuvent alerter quelqu'un sur la présence ou sur le développement d'un cancer du sein?
Oui. Aujourd'hui, avec la méthode d'autopalpation, les dames, quand elles sont informées, découvrent très tôt l'apparition d'une boule au niveau du sein.
C'est le premier symptôme?
Le premier symptôme, c'est quand même un petit nodule qui apparaît dans le sein. Il n'est pas normal si au départ, vous n'avez rien dans le sein, que vous palpez un nodule. C'est même là où je conseillerais aux hommes de parfois palper les seins de leur femme. Ça peut être un sourire, mais c'est comme ça. Alors, on peut avoir une inflammation, c'est-à-dire que le sein devient gros, il brille, et quand on n'a pas l'information, on pense que c'est quelque chose de normal, alors que c'est la maladie qui est déjà là, qui est même évoluée sur le plan local.
Y a-t-il d'autres signes qui peuvent vous montrer qu'une femme est peut-être en train de développer un cancer du sein?
On peut avoir aussi un saignement à travers le mamelon. Ça, c'est quand il y a des cancers, que nous appelons les cancers intergalactophoriques. Vous pouvez avoir une plaie au niveau de la peau du sein, qu'on appelle les cancers ulcérés ou les cancers ulcéro-bourgeonnants. C'est-à-dire que vous avez une plaie et vous avez comme quelque chose de très charnu qui est en train de pousser à travers cette plaie. Parfois, on peut avoir une petite douleur, sans pourtant qu'il y ait un nodule. Mais là, c'est très, très rare. Et quand c'est comme ça, vous partez voir votre gynécologue qui va procéder à faire un certain nombre d'explorations pour éliminer ou faire avérer le cancer du sein. Voilà, grosso modo, à peu près les signes.
Alphonse Mbouaki revient. Il se demande si dès qu'une tache noire apparaît sur la mamelle, est-ce qu'il faut que la femme aille voir directement un médecin pour examen?
Au départ, vous n'avez rien sur votre sein et que vous observez une tache qui apparaît. Si c'est une tache récente, si vous êtes inquiète, mais l'idéal serait que vous allez voir votre médecin parce que c'est une tache noire peut cacher quelque chose d'autre. Imaginez que ce soit une tache noire qui a l'aspect d'un grain de beauté. Et si ce grain de beauté s'ulcère, ça veut dire que c'est peut-être un cancer qu'on appelle le mélanome qui est en train de s'installer. Donc, si vous avez une tache, oui, il faut aller voir son médecin. Il ne faut pas hésiter.
Comment est-ce que se fait le dépistage?
Il faut distinguer le dépistage et le diagnostic précoce. Ce sont deux choses différentes. En Occident, en France notamment, l'âge recommandé pour le dépistage est de 50 ans. La sociologie qui est la nôtre ici par rapport au cancer du sein montre que la moyenne d'âge des dames qui font le cancer du sein tourne autour de 40 ans. Donc je suis enclin à penser que pour le Congo-Brazzaville, nous allons imposer le dépistage à partir de 40 ans. Mais non, l'idéal serait qu'après 50 ans ou bien après 40 ans, que tous les deux ans que vous alliez voir votre médecin, que vous fassiez faire une mammographie pour voir s'il y a une petite boule. Et s'il y a une petite boule, vous avez la chance de guérir de votre cancer parce que le traitement sera moins mutilant, moins onéreux et moins long.
Est-ce qu'à Brazzaville, les femmes viennent facilement, de façon spontanée, se faire dépister même quand elles n'ont rien remarqué?
Les choses ont beaucoup changé depuis une vingtaine d'années. À l'époque, parler du cancer du sein ou du cancer en général, c'était tabou. Mais depuis que Brazzaville s'est doté d'une école de formation des cancérologues, parce que, madame, je vous rappelle que l'école de Brazzaville a formé des médecins ivoiriens, des médecins sénégalais, des médecins béninois, des médecins guinéens, des médecins gabonais, des médecins béninois, des médecins camerounais. Maintenant, nous avons dans le service des médecins burkinabés. On en a aussi formé des burkinabés. Donc, nous parlons régulièrement des cancers à Brazzaville. Ce qui fait que la population est suffisamment sensibilisée et quand il y a un problème, bon, les gens viennent. Mais il en demeure qu'il y a encore des gens qui sont dans le déni ou le reni de la maladie, qui tardent à venir chez nous. Et vous savez, quand vous venez tard à la consultation, malheureusement, les traitements deviennent délicats, ça coûte cher et puis on a très peu de résultats.
Professeur, il y a aussi des femmes qui vivent dans des localités éloignées de la ville où elles n'ont pas facilement accès à un centre de santé. Comment est-ce que vous vous arrangez, bien comment est-ce que les médecins peuvent s'arranger pour aider ces personnes-là?
Alors ça, c'est une question qu'il faut poser aux hommes politiques. Parce que ce sont les politiques, c'est le gouvernement qui affecte les médecins dans les contrées. Mais encore faudrait-il que nous soyons nombreux pour que nous arrivions à couvrir tout le pays. Pour le Congo, l'école de médecine sort tous les ans entre 40 et 50 médecins aujourd'hui. Couvrir toute la République, c'est encore délicat. Mais le gouvernement s'y emploie à envoyer des gens en formation à Cuba. Donc, nous pensons qu'avec le retour de nos jeunes frères, on pourra les ventiler sur toutes les territoires de la République et commencer à régler ce problème-là.
Nous l'espérons aussi. Est-ce que toutefois qu'un sein grossit, on doit s'alarmer, dire que c'est un cancer?
Non, pas du tout. Le diagnostic du cancer du sein est un diagnostic anatomopathologique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un prélèvement, qu'on va envoyer au laboratoire, et c'est le biopathologiste qui va nous dire qu'il y a un cancer du sein. Toute boule n'est pas seulement le cancer du sein. Vous pouvez avoir une boule qui est une tumeur bénigne. Donc, pour répondre à votre question, toute boule n'est pas synonyme de cancer du sein. Vous pouvez avoir une boule qui est en fait une tuberculose localisée dans le sein, qui n'a rien à voir avec le cancer du sein.
Léo-Émile Kakonde pense que les femmes blanches sont beaucoup plus exposées au cancer du sein que les femmes noires. Est-ce vrai?
Non. Ça n'a rien à voir. Que vous soyez blanche ou noire, vous êtes exposé au cancer du sein de la même façon. Le seul problème, c'est que là-bas, vous avez des médecins de famille, donc vous avez des examens médicaux régulièrement. On peut détecter la maladie très facilement. Vous avez les corps médicaux qui sont très organisés. Voilà. Et chez nous, si vous habitez à 300 km de Brazzaville, une localité où il n'y a aucun médecin, comment voulez-vous qu'on puisse diagnostiquer votre cancer du sein à temps? Que l'on soit jaune, rouge, noir, blanche, comme vous voulez, le risque reste le même.
En cas du cancer du sein, y a-t-il une façon spéciale ou une façon particulière avec laquelle la femme doit prendre soin de sa poitrine?
Prendre soin de sa poitrine, non. La femme doit rester attentive, tout simplement. Elle doit être vigilante. Dès qu'il y a une anomalie qui apparaît dans le sein, si on avait fait une petite chirurgie, elle doit repartir voir son cancérologue. Oui, bien sûr. Il faut repartir immédiatement, il ne faut pas attendre.
Henri Kasongo Mulenda, depuis Kisangani, en République démocratique du Congo, se demande s'il y a un traitement approprié pour guérir du cancer du sein.
Moi, je suis cancérologue depuis un peu plus de 25 ans maintenant. S'il n'y a pas les traitements, on n'aurait pas fait cette spécialité. Non, aujourd'hui, on arrive à guérir à travers le monde 7 cancers sur 10. Nous, en Afrique, nous sommes encore loin du compte parce que les gens arrivent en retard à la consultation.
C'était notre entretien avec le professeur Jean-Bernard Kouambon, chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Makouadi au Congo. Maintenant, cette semaine, dans Carnet de santé,
focus sur les mutilations génitales féminines, des interventions non médicales qui consistent à sectionner une ou plusieurs parties des organes génitaux externes de la femme. Nous irons au Kenya toucher du doigt ce phénomène. Dans ce pays, environ une femme sur cinq, âgée entre 15 et 49 ans, en a été victime, selon l'ONU. Nous écouterons le témoignage d'Assita Traoré, une femme originaire du Burkina Faso, qui a subi ces mutilations. Nous écouterons aussi l'analyse de Judy Gitao, coordinatrice pour l'Afrique d'une ONG de protection des droits des femmes et des filles. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Carnet de santé. Les mutilations génitales féminines recouvrent toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiqués pour des raisons non médicales. Cette intervention est généralement pratiquée par des circonciseurs traditionnels qui jouent un rôle souvent central dans les communautés, notamment en tant qu'accoucheur. L'OMS estime que plus de 200 millions de jeunes filles et femmes toujours en vie ont été victimes de mutilations sexuelles pratiquées dans 30 pays africains, du Moyen-Orient et de l'Asie où ces pratiques sont concentrées. Mais l'UNICEF dit observer une tendance à la baisse de ces pratiques dans le monde, même si elles résistent dans les pays comme l'Éthiopie et le Kenya. De Nairobi, voici le reportage de Ouba Abdi.
Imani, un nom d'emprunt, se souvient encore quand elle a été excisée à l'âge de 10 ans. À l'époque, elle croyait que la pratique était la bonne chose à faire et elle n'avait pas le choix.
J'ai été excisée quand j'avais 10 ans et à cette époque, j'étais contente car le mois de décembre marquait la période d'excision pour les jeunes filles. Je voulais être une femme. C'est comme un rite de passage très important pour notre communauté Kisi.
L'excision est pratiquée pour diverses raisons. Certaines communautés l'utilisent comme un rite de passage. Certains y voient un moyen d'améliorer l'hygiène et l'esthétique, la maturité sexuelle, la possibilité de se marier et l'appartenance sociale.
Maintenant qu'Internet est arrivé, j'effectue des recherches pour me rassurer sur le fait que je pourrais avoir une bonne vie sexuelle. Je lis des articles, par exemple, sur la sexualité d'une fille excisée. Et au fur et à mesure, les choses que je lisais m'affectaient psychologiquement. Alors, j'ai commencé à me sentir triste et je me suis dit que je n'étais pas une femme parfaite.
La dernière enquête démographique et sanitaire du Kenya de 2022 a montré que la pratique des MGF est passée de 21% en 2014 à 15% en 2022. La prévalence était plus élevée chez les femmes somaliennes, Samburu, Kissi et Maasai. Cependant, malgré ce succès, de nombreuses jeunes filles subissent encore des mutilations génitales dans différentes régions du Kenya.
Si quelqu'un demande votre main en mariage, notre culture est que vous devez d'abord être excisé avant d'être la femme de quelqu'un. Personne ne veut épouser une fille qui n'a pas été excisée. Alors, les mères excisent leurs filles parce qu'elles veulent les donner en mariage. Vous constaterez aussi que le manque de moyens contribue au mariage des filles. Et pour nous, épouser une fille va de pair avec son excision.
Gedida Lemaron, avocate et directrice exécutive de l'initiative Malkia, affirme que les mutilations génitales féminines sont enracinées dans l'inégalité entre les sexes et les déséquilibres de pouvoir. Combattre cela nécessite de changer les normes culturelles et sociales qui augmentent le risque de préjudice pour les femmes. Cela signifie qu'il faut s'attaquer à toutes les autres formes de violence et de pratiques néfastes telles que le mariage des enfants, la violence physique, sexuelle et psychologique survenant au sein de la famille, des institutions et des communautés.
Les raisons pour lesquelles les mutilations sexuelles féminines sont pratiquées varient d'une région à une autre. Mais dans bien de cas, elles visent à assurer la virginité prénuptiale et la fidélité conjugale. Pourtant, elles ne sont pas nécessaires. Elles sont même dangereuses selon des ONG de promotion des droits des filles et femmes comme Equality Now. Judy Guitao est la coordinatrice régionale de cette ONG pour l'Afrique. Voici son analyse.
La situation des MGF, si je peux commencer par l'Afrique, est sur le plan juridique. Il y a au moins 4 pays qui ont une forte prévalence de MGF, mais qui n'ont toujours pas de cadre juridique en place. Ce qui signifie que les MGF dans ces pays se poursuivent sans aucune forme de responsabilité. Sur le plan positif, cependant, d'autres pays qui ont des MGF ont au moins une loi en place, et cela signifie que même si le nombre ou la prévalence est encore assez élevée, il y a toujours une opportunité de rendre des comptes. Au niveau de l'Union africaine, nous avons l'initiative Salima qui cherche de nouveau à accélérer les différents efforts. Par exemple, celui de mettre en place un cadre juridique pour tous les pays qui ont effectivement un taux de prévalence élevé de MGF, de sorte qu'au moins il y ait une base de départ pour la politique. Et puis, la responsabilité incombe à chacun des pays, à chacun des gouvernements, de commencer à pousser, à appliquer les lois, mais aussi à sensibiliser les communautés et à reconnaître que les MGF sont un problème social, une norme sociale, et donc qu'il faut à nouveau faire comprendre aux communautés d'abandonner cette pratique. Les effets physiques y sont également assez graves en raison des effets immédiats une fois que la MGF a été pratiquée. Je veux dire allant de l'hémorragie qui pourrait même entraîner des infections mortelles, un gonflement du tractus urinaire, etc., jusqu'aux effets à long terme tels que nous les connaissons. Nous avons commencé la discussion sur les MGF alors que c'était un sujet tabou dans bon nombre de ces pays. Dans certains des pays qui n'ont pas encore mis en place de législation, comme le Liberia, il était impossible d'avoir une discussion sur les MGF. Ce qui est important cependant, c'est que nous nous assurons que nous ne l'avons pas seulement dans la loi, mais que nous gagnons les cœurs et les esprits pour que tout le monde dans la communauté commence à comprendre que c'est une pratique qui cause du tort. Ce qui est essentiel et ce qui mènera à la lumière au bout du tunnel est une réalité, c'est d'éduquer notre peuple et d'éduquer la population jusqu'à ce qu'elle réalise que les MGF sont une erreur.
Assita Traoré est originaire du Burkina Faso. Elle a subi une mutilation génitale dans son pays d'origine. Elle est venue aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure, accompagnée de sa fille, qu'elle ne voulait pas voir subir le même traumatisme. Après de nombreuses années d'hésitation, elle a finalement décidé de subir une chirurgie de réparation. Regardez.
Je me rappelle quand j'ai été victime de l'excision, c'est quand j'avais 4 ans. Et je me rappelle même qu'on était au moins 3 ou 4 dans la famille. On n'avait pas, les parents n'avaient pas les moyens pour le faire. Et ça coûtait en ce temps 2000 francs CFA, ce temps. Et c'était à 4 ans que mes parents avaient les moyens, plus une de ma petite sœur, moi, plus une grande sœur. On était 4, on nous a excisés. Je peux me rappeler de ce jour. Ça a laissé une image que je ne peux jamais oublier. Et là même n'est pas le vrai problème. Après la douleur que tu ressens quand t'as violenté, une partie qui est vraiment sensible, imagine la douleur, le temps de guérison, toutes les souffrances. Et comment ça se fait en plus? Ça ne se fait même pas à l'hôpital, ça se fait à la maison avec des matériels qui n'est même pas bien approprié et on te traite à la maison, on te cache, on soigne, imagine tout cela. Là même, n'est pas le vrai problème, c'est quand même tu vas grandir et tu vas vraiment sentir l'impact. Parce que tout le temps, une fois que tu es guéri, tu oublies. Mais maintenant, quand tu arrives à l'âge de la puberté, à l'âge de l'accouchement, c'est là que le vrai problème commence. Parce que c'est comme c'est une plaie qui a été cicatrisée. Et à l'accouchement, ça fait que l'accouchement devient difficile. Et je me rappelle que quand il y a un moment que ça me stressait, ça m'énervait, je me disais que non, pourquoi quelqu'un a été capable d'enlever une partie de moi. C'est comme si j'ai quelque chose qui me manque étant femme. Donc j'ai appris qu'au Burkina, ils reconstruisent le clitoris et je suis allée. Le monsieur qui venait faire ça au Burkina, il habitait en France. Bon, comme je suis aux États-Unis, j'ai préféré prendre rendez-vous avec lui en France et puis aller le refaire. Mais en réalité, quand tu refais, je ne pense pas que ça change en intégralité la virginité. Qu'est-ce que je veux dire? Ça ne ramène pas la virginité, mais ce qui est bien dans ça, tu te retrouves comme une femme complète. C'est ça qui est l'avantage de ça. Tu te retrouves, tu te vois maintenant comme ce qu'on allait enlever de toi est revenu. Ça, au moins, ça te donne un peu la paix du cœur.
Certaines victimes de mutilations génitales féminines ont recours à la chirurgie pour réparer le tort qui leur a été causé. Au Kenya, une soixantaine de femmes se sont présentées pour une chirurgie réparatrice du clitoris lors d'une récente opération humanitaire à Nairobi afin de retrouver leur féminité après avoir subi des mutilations génitales féminines pendant leur enfance. Regardez.
Dans un hôpital de Nairobi, la capitale du Kenya, des chirurgiens préparent une patiente pour une chirurgie reconstructive. Elle est une survivante de mutilation génitale féminine, MGF, et a demandé l'anonymat en raison de l'intimité du sujet. J'avais 9 ans, dit-elle. Pratiquée dans 30 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et Asie, les MGF impliquent l'ablation totale de la partie externe et visible du clitoris ou d'autres blessures aux organes génitaux féminins, généralement infligées pendant l'enfance. Mais en novembre, la patiente faisait partie d'une soixantaine de femmes qui se sont présentées pour une chirurgie reconstructive du clitoris organisée par l'ONG Clitored. Elle a été offerte gratuitement lors d'une visite de 2 semaines par la chirurgienne américaine Dr. Marcy Bowers, une pionnière dans le domaine. Elle avait opéré des centaines de femmes kényanes lors de 2 visites précédentes en 2017 et 2019. Bowers a déclaré que le clitoris est autour de 11 cm de long et ce qui est coupé en MGF n'est que la pointe. Bowers a déclaré que les termes qu'elle entendait encore et encore sont « changer la vie » et que les patientes avaient l'impression de retrouver leur sens de la féminité. Enracinées dans les conventions sociales et les croyances culturelles sur la féminité et la sexualité, les MGF sont profondément nocives à court et à long terme. Certaines filles meurent et les conséquences à vie incluent des infections urinaires et vaginales, des problèmes sexuels, des complications lors de l'accouchement et des douleurs psychologiques. Jocelyne Mwangi est une militante kényane qui travaille sur des programmes communautaires visant à prévenir les MGF par l'éducation. Elle a déclaré que la chirurgie n'est pas la solution MGF, mais qu'elle complète les efforts qui sont entrepris pour arrêter les MGF. Je pense qu'elle peut être assistée et vivre au moins une vie normale, a-t-elle déclaré. Le Kenya interdit les MGF il y a 10 ans avec une peine de 3 ans d'emprisonnement et une amende de $2000. Mais la pratique persiste car certaines communautés considèrent qu'elle est nécessaire pour l'acceptation sociale et l'augmentation des perspectives de mariage de leurs filles. Selon les Nations Unies, une femme et une fille kényane sur 5, âgées de 15 à 49 ans, ont subi une MGF. Cependant, les attitudes changent.
Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations sur la santé, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci pour votre fidélité à Carnet de Santé. Prenez soin de votre santé. À très bientôt.
C'est la fin de ce magazine « Votre santé, votre avenir ». Nous étions en compagnie du professeur Jean-Bernard Kwambon, chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marien-Ngouabi au Congo. Dans cette première partie consacrée au cancer du sein chez la femme, nous avons parlé des facteurs de risque, des symptômes et des traitements. Dans notre prochaine édition, nous discuterons des chances de guérison, de l'après-traitement et de quelques moyens pouvant permettre de minimiser les facteurs de risque d'un cancer du sein chez la femme. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. À la réalisation, Zeina Abdelrahman. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous.